1 Corinthiens chapitre 6, les versets 12 à 20. Au nom de Jésus, utilisez votre corps pour la gloire du Seigneur. Certains d'entre vous disent « Tout m'est permis ». Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire « Tout m'est permis ». Mais je ne vais pas me laisser réduire en esclavage par quoi que ce soit. Vous dites aussi la nourriture est pour le ventre et le ventre pour la nourriture, oui. Cependant, Dieu détruira l'une et l'autre. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour l'immoralité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ramené le Seigneur à la vie et il nous ramènera de la mort à la vie par sa puissance. Vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Car l'Écriture déclare « Les deux deviendront un seul être. » Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Fuyez l'immoralité. Tout autre péché que commet un homme reste extérieur à son corps, mais l'homme qui se livre à l'immoralité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acquis, il a payé le prix, et pour cela, utilisez donc votre corps pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais vous surprendre ce matin. Je vais vous inviter à écouter un peu les paroles de chanson de notre ami Christophe Maé. Il est où le bonheur? C'est le thème de notre culte ce matin, justement. Ça m'a intéressé de voir un peu qu'est-ce qu'il dit, celui-là. Et voilà quelques phrases. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons. J'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule. J'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con. C'est vrai, j'ai fait la fête. Ouais, je croyais être heureux. Il y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient, ces dimanches soirs, dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte, ce chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes. Ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. Il est là. Intéressant comme réflexion. Il est là, mais on ne peut pas l'avoir. Et j'ai souligné quelques mots intéressants en fonction du texte. Je vais relire ce texte de 1 Corinthiens à travers ce chant de Christophe Maé. Un peu étonnant comme exégèse, mais... Il parle ici, j'ai fait l'amour, et on parle dans le texte d'immoralité sexuelle. Il parle aussi de chansons, musique. On aime bien la musique, mais est-ce qu'on oublie après les problèmes de la vie, après avoir chanté, dansé? Non. J'ai fait semblant, beaucoup font semblant. Des faux rires, des fausses joies. J'ai fait la fête, je croyais être heureux, mais... Le lendemain, tout me revient. J'ai essayé de noyer mon chagrin dans la flotte, mais là, tout me revient. Vous voyez, tout ce qui a été dit dans cette chanson explique sous une autre forme ce qui est la réalité. Et notre texte de ce matin aborde une question fondamentale. Qu'est-ce qui nous procurerait le bonheur? Et aussi une autre question, est-ce qu'un chrétien doit se priver des plaisirs de la vie? Parce que nous sommes chrétiens, donc faut être sobre, ne pas rigoler, souffrir. Deux questions éthiques intéressantes. Et l'apôtre Paul énumère notre rapport avec les aliments, par exemple, ici. Aimer manger, sous-entendu l'excès de table aussi, la beuverie, etc. Il parle aussi de notre rapport avec notre corps. Avons-nous les pleins droits d'usage de notre corps? N'oubliez pas que notre corps a ce qu'on appelle en termes informatiques un copyright. Ça ne nous appartient pas. C'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi dois-je me référer à une autre personne avant de décider ce qui est bon ou mauvais pour moi? Où est ma liberté dans tout cela? Voilà des questions qui découlent de ce texte aujourd'hui et toujours en lien avec le corps. Paul parle du désir charnel en tenant compte du contexte de l'époque d'abord. Les Corinthiens qui avaient une vie qualifié de débauche, car beaucoup avaient comme habitude, à cette époque-là, de coucher avec des prostituées. Et remarquez, c'était une pratique courante, je dis bien courante, de l'époque. Par exemple, au temps de Samson, vous vous rappelez, quand il quittait son village pour aller taquiner les Philistins, il faisait un détour chez les prostituées philistines, et c'est là qu'il a fait la fâcheuse rencontre avec Dalila. Et face à toutes ces questions qui se posent à nous, comme des défis sur le plan éthique, que répondre aujourd'hui? Que dire? Eh bien, notre cher ami Paul a bien donné sa position. Il a bien résumé son point de vue. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout se trouve dans cette phrase. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Utile. Et comment savoir ce qui m'est utile? Alors la réponse se situe dans la suite du verset même. Je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Tiens, tiens, si je comprends bien ce qu'il veut dire, c'est que finalement nous pouvons passer outre du diktat de la chair. Parce qu'on dit toujours, oui, mais la chair est faible. Comme dit l'évangile de Marc, veillez, priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et on aime bien se réfugier derrière ce verset. La chair est faible. Oui, la chair est faible parce qu'elle est sous l'emprise de la quête du plaisir. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas le nier. Et même les philosophes comme Spinoza avouent qu'il faut mettre de l'ordre dans ses passions et ses plaisirs. Mais contrairement à nous, il exhorte les gens à faire des efforts par la raison. Pour lui, il faut faire des efforts par la raison. Mais nous savons tous que parfois on n'est pas raisonnable face à la chair. Et c'est justement là que Jésus parle dans l'évangile de Marc que la chair est faible et nous n'avons pas les moyens de faire cet effort-là. Nous ne faisons pas le poids devant la chair. Les plaisirs de la vie qui ne sont pas mauvais en soi, mais c'est l'ensemble des plaisirs qui tuent le bonheur. Car même le plus illustre des philosophes Épicure avance que tous les plaisirs ne sont pas bons. Celui qui disait qu'il faut vivre avec tout ce qu'on veut, qu'on désire. Ils peuvent nous faire du mal. Il y a trop de plaisir qui tue le bonheur. On mange trop, on boit trop et nous tombons malades. Donc il faudrait sélectionner les plaisirs. Jusque-là, je crois que nous sommes tous d'accord avec les philosophes, même avec Épicure et les autres philosophes. Mais le grand problème, avec quoi allons-nous sélectionner ces plaisirs qui nous feront du bien? Je trouve que le texte que nous avons sous nos yeux aujourd'hui regorge beaucoup de détails qui nous sont passer comme ça sous nos yeux sans les apercevoir. Paul met une lumière sur une chose. Nous accordons trop d'importance à des choses qui ne valent pas la peine. Voici ce qu'il dit. Les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. Mais Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. En d'autres termes, cela ne durera pas. Et d'ailleurs, vous le voyez, le cycle reprendra incessamment jusqu'à notre mort. On peut se gaver de toutes sortes de nourriture, mais le lendemain, rebelote, nous aurons faim. Et c'est ça, la réalité que Paul veut nous faire comprendre. Et même, selon le sociologue que j'ai énuméré dans l'accueil tout à l'heure, Frédéric Lenoir, qui dit, il a rapporté une statistique intéressante qui a été faite par des scientifiques, concernant la source du bonheur. Voici la conclusion qu'ils ont tirée, les scientifiques. Paraît-il, selon les scientifiques, 50% viendrait de la génétique, de notre héritage génétique. 40% proviendrait de ce qu'on va faire, les choix de vie, les rencontres, les activités. Et 10% seulement viendrait des conditions extérieures. Or, nous dépensons toutes nos énergies avec ces 10%. 10% seulement viendrait des conditions extérieures. Des voitures, de l'argent, des vêtements. 10%. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Vous voyez déjà, même sur ce côté-là, on peut voir où est-ce qu'on investit notre énergie. Dans une famille riche ou dans une famille pauvre, on évolue dans quel pays, on fait quel genre d'études, tout cela. Et si on ne se base rien qu'avec cette analyse, que constatons-nous? Le vrai problème à l'accès au bonheur, c'est moi-même, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas dans la consommation de nourriture, ni dans les plaisirs que nous pourrions atteindre le bonheur. Nos plaisirs corporels, je dis bien plaisirs corporels, pour nuancer au plaisir charnel, ne pourraient pas combler le vide en nous. Et là, on revient à la question du chanteur tout à l'heure, il est où le bonheur? Alors, en réaction de cette quête du bonheur, ou plutôt de ce culte du bonheur, du plaisir, la réaction de l'Église était à l'extrême, depuis toujours. Il fut un temps, l'Église avait fait une chasse aux sorcières. Par exemple, celui ou celle qui allait au théâtre était mal vu par le clergé. Oh. Les missionnaires chez nous, moi je me rappelle bien, qui nous dictaient ce qu'il fallait faire ou pas faire, qui nous dictaient l'endroit où l'aller ou pas, même notre façon de se vêtir pour venir au culte, il y avait des codes vestimentaires dictés par nos missionnaires. Ah, ça c'est bien. Et tout doucement, le message de l'Évangile a été mal compris. Les enseignements des apôtres étaient déviés et interprétés à une éthique que j'appelle doloriste, une exaltation de la douleur. Et cela se reflète dans l'ascétisme piétiste, c'est-à-dire avoir une vie pieuse avec un visage marqué par la souffrance, par des privations de beaucoup de choses. Et ça a été la réaction de cela avec ces formes de piétisme plus tard dans l'Église. Il y avait beaucoup de déviations. Et même dans le monde du protestantisme, vous savez très bien, la sobriété devient la règle d'or chez les protestants. Se limiter à la limite même de souffrir, ça c'est un bon chrétien. Et c'est là le grand problème des puritains et des ascètes. Ils croient que si nous nous privons de beaucoup de choses et nous nous faisons du mal, alors le Seigneur sera ravi au ciel. Et ça c'est un bon témoignage. Chers frères et sœurs en Christ, ne nous trompons pas, la souffrance ni la sobriété ne doivent être pas la règle d'or. La souffrance ni la sobriété, cela doivent être bénéfiques que pour les autres, mais pas pour moi. Sinon, cela ne sert à rien, quelle que soit la louange qu'on fait autour de ces valeurs. Pour être plus concret, voici quelques exemples qui pourraient nous aider à comprendre ce que je viens de dire. Dans l'Ancien Testament, face à la privation de nourriture pour les jeunes, le Seigneur avait bien dit que je préférerais, il ne néglige pas le jeûne spirituel, mais il dit, je préférerais que tu te prives de nourriture pour ceux qui ne mangent pas. Donc tu te fais du mal, non pas pour que Dieu soit content, mais tu te fais du mal pour que l'autre soit content, pour que l'autre puisse manger le plat que tu n'as pas mangé. Ça, le Seigneur, il dit, je préférerais celle-là. Et donc à ce moment-là, la souffrance, elle est bénéfique pour l'autre. Mais si c'est juste pour montrer que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, cela ne servirait à rien. Et Dieu ne tient pas compte de cela. N'est-ce pas ce que Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3 ? Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Bref, notre péricope de ce matin parle du fondement de l'éthique chrétienne qui ne se base pas sur ce qu'on fait. Or, c'est là tout le temps qu'on se trompe. Qu'est-ce que je dois faire ? L'éthique chrétienne ne se base pas sur ce qu'on doit faire, mais l'éthique se base d'abord sur ce qui nous sommes. Ça, c'est le point de départ de l'éthique. Qui tu es ? Après avoir connaître qui tu es, tu sauras ce que tu dois faire. Et c'est ce que Paul martèle, nous faisons qu'un avec le Christ. Nous sommes les sanctuaires de l'Esprit de Dieu. Vous voyez ce qu'il dit tout à l'heure ? Ce n'est pas possible qu'une partie du corps du Christ soit donnée à l'immoralité. Vous voyez qui nous sommes ? Et quand nous savons qui nous sommes, nous savons que devrons-nous faire. Et quand tu sauras vraiment cette règle d'or, tu pourras t'épanouir dans la vie chrétienne. La vie chrétienne ne doit pas un poids. L'éthique chrétienne n'est pas un poids. Ce ne sont pas des disciplines à suivre. C'est une façon de vivre. Et comme ici, il est dit que nous sommes unis au corps du Christ, nous puisons tous les jours en lui la force. Car voici ce qu'il a dit. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Mais hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est un combat de tous les jours. Tous les jours. C'est pour cela que nous revenons chaque jour au pied du Christ, que nous soyons unis à lui. Et quand nous sommes remplis du Christ, il nous guidera sur le chemin à suivre. Amen.